Deutsche Welle. L'arbre à palabres.
Bonjour. Le drame survenu le samedi 6 janvier 2018 dans le sud du Sénégal a relancé la question du trafic illicite de bois qui non seulement détruit la nature, mais aussi constitue une menace sécuritaire régionale. Au moment où nous enregistrons cette émission, les auteurs de l'assassinat de 13 coupeurs de bois, dont 10 par balle, 2 égorgés et 1 brûlé selon un communiqué de la présidence sénégalaise, les auteurs, disais-je, ne sont pas identifiés, mais pratiquement personne ne conteste le fait que ce drame ait pu être une manifestation de la violence entourant l'exploitation de bois, une activité apparemment très lucrative, mais dont l'État semble ne pas avoir tout le contrôle. Et d'ailleurs, faudrait-il encore le rappeler, le sud du Sénégal est confronté à une rébellion indépendantiste depuis plus de 35 ans. Même si des efforts se multiplient ces derniers temps pour une pacification de cette région de la Casamance, les événements du 6 janvier font penser à certains que la paix n'est peut-être pas si proche que l'on pense. Y a-t-il un lien entre le massacre des 13 coupeurs de bois et la rébellion casamançaise? Quelle est l'ampleur du phénomène de trafic illicite de bois et pourquoi les groupes incontrôlés continuent-ils de régner sur ce trafic? Question à nos invités. Haïdar El Ali, célèbre environnementaliste, ancien ministre de l'Environnement au Sénégal, président de l'ONG Oceanium. Monsieur El Ali, bonjour.
Bonjour, bonjour, chers auditeurs.
Nous sommes aussi avec le docteur Moussa Cissé, secrétaire général du collectif des cadres casamançais et ancien membre du Rassemblement des écologistes du Sénégal. Monsieur Moussa Cissé, bonjour.
Bonjour.
Nous avons pris rendez-vous avec le maire de la commune de Niassia, Mamadou Diallo, la commune de Niassia dont dépend la forêt classée de Bofabayot, où les 13 personnes ont été massacrées le 6 janvier 2018. Mais à l'heure de l'enregistrement de l'émission, le maire Mamadou Diallo, pour des raisons que nous ne comprenons pas, se fait injoignable. N'empêche, nous allons organiser cette émission en posant la première question donc à M. Haïdar El Ali. Comment est-ce que vous réagissez à ce drame qui s'est déroulé donc le 6 janvier 2018 dans la forêt casamançaise où 13 personnes ont perdu la vie?
C'est un drame qui est tragique, que nous déplorons, parce que la solution n'est surtout pas dans des règlements de compte jusqu'au boutiste qui mène à la mort d'hommes. Mais je rappelle que pour des raisons d'accès à la ressource, forestière ou à la ressource halieutique, je rappelle que tous les jours, il y a des morts parce que personne ne quitte un endroit où il fait bon vivre. Mmh. Aujourd'hui, c'est un drame qui s'est passé dans la forêt de Bayonne, mais je rappelle aussi que des jeunes défenseurs de l'environnement de la région de Koldan sont en prison après avoir été tailladés à coups de machette par des trafiquants qui ensuite ont porté plainte contre eux pour tentative d'extorsion de fonds, et ce sont ces jeunes défenseurs de l'environnement qui sont en prison. Et je rappelle qu'un chef de village dans la région de Koldan a été assassiné par les trafiquants de bois, et personne ne parle jamais de tout cela, jusqu'à ce que ce drame arrive.
Monsieur Haïdar El Ali, vous avez abordé beaucoup de choses. Vous avez abordé la question du ravage que produit le trafic de bois, le trafic apparemment anarchique. Hein. Vous avez aussi évoqué la complicité, le comportement de la justice aussi, la complicité qu'il pourrait y avoir avec certains acteurs dans les milieux censés contrôler ce genre d'activité. Nous reviendrons sur ces aspects tout à l'heure. Une réaction de Dr Moussa Cissé, le secrétaire général du collectif des cadres casamançais, à ce drame, à ce énième drame qui est survenu donc le 6 janvier 2018.
Oui, je crois que c'est un véritable drame, qu'il y ait 13 morts et des blessés gravement. Ce drame, qu'on le veuille ou non, s'apparente à un certain nombre de frustrations qui, malheureusement, malgré les alertes, malgré les mises en garde, ça n'a absolument rien donné. Et je crois que aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment regretter, c'est qu'il y ait une sorte d'inertie. Parce qu'il y a eu des événements, beaucoup d'événements qui se sont succédés. Je pense notamment en 2011, où le 21 novembre, il y a eu effectivement 10 jeunes aussi qui ont été tués pratiquement dans les mêmes cas de figure. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'alertes de la part des populations. Les populations ont essayé autant que faire se peut de protéger leurs ressources, ou en tout cas les ressources qui nous sont communes à nous tous, Casamançais et Sénégalais. Et malheureusement, il ne s'est rien passé. Il est évident que tuer des gens, une personne ou 13 personnes, cela ne peut être justifié par quoi que ce soit. Nous savons tous le droit de défendre les intérêts qui nous sont tous communs, mais cela ne doit en aucun cas nous conduire à des tueries.
Et pour permettre à nos auditeurs, peut-être ceux qui sont à l'écoute, de bien comprendre, peut-être M. Haïdar et Lali, vous pourriez nous dire en deux mots quelle est l'ampleur du phénomène d'exploitation illicite de bois en Casamance et pourquoi cela entraîne une telle insécurité.
Oui, une étude scientifique d'une université américaine a révélé qu'entre 2010 et 2015, sur cette partie de la Casamance avec laquelle nous avons en frontière avec le pays, la Gambie, sur cette partie de la Casamance, nous avons perdu 10 000 hectares de forêt. La douane chinoise dit, elle, j'importais de la Gambie, moi, douane chinoise, pour une valeur de 140 milliards de francs CFA tous les ans de bois de veine. Et tout ce bois de veine provient de la forêt de Casamance. Donc, il y a un vaste réseau de mafieux, parce qu'il est prouvé, même par Interpol, que quand on n'a pas un trafiquant de cocaïne qui a une valeur de cocaïne de 10 millions de dollars, eh bien, ce monsieur va passer 30 ans en prison. Et la mafia a compris qu'avec l'environnement, elle pouvait tirer des revenus. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déplace vers l'environnement, comme des rhinocéros, des plantes d'ivoire, d'éléphants, ou bois de rose à Madagascar, ou bois de veine en Afrique de l'Ouest. Et c'est passé, il est là. Les Chinois se sont déplacés vers la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry parce que la Gambie, avec l'avènement du nouveau gouvernement, la Gambie a interdit l'exportation de bois. Mais le trafic perdure et continue. Il est présent. Il y a quelques mois, un maire à Bingira, la région de Kolda, s'est plaint comme quoi ils ont tellement déboisé toute sa commune que maintenant ils déboisent les fondales qui sont dans les cimetières. C'est terrible pour nous, parce que nous vivons un vrai drame.
Haïda El Ali, vous avez l'air d'indiquer qu'il n'y a pas de contrôle sur le secteur du bois.
C'est plus vicieux que ça. Regardez, prenez un exemple. 80% des permis de coupe et de permis de circuler sont délivrés à deux régions. La région de Dakar et la région de Durvel. Deux régions qui n'ont pas de forêt d'ailleurs. Et donc, les autochtones ne comprennent pas que des gens viennent nantis et munis de permis d'exploiter. Et eux, c'est des camions et des camions. Je peux donner un chiffre. Quand j'étais ministre de l'Environnement, en avril 2012, j'ai envoyé une inspection contrôler les circulations de permis au poste de contrôle de Kaffrine, à peu près à 250 km de Dakar. Eh bien, en trois mois, c'est 1580 camions de 30 tonnes qui sont passés par ce poste de contrôle. 80% des permis étaient délivrés dans les deux régions dont je vous parle. Comment est-ce que vous voulez que les gens qui habitent dans la forêt comprennent cela et acceptent cela? Donc il y a un vrai problème de gestion de ces biens. La loi, elle est claire. La loi sénégalaise dit que la gestion des ressources naturelles est une compétence transférée vers les collectivités locales. Donc le maire doit délivrer un permis préalable d'exploitation dans sa commune. Mais moi, je connais des maires qui eux-mêmes financent l'achat des tronçonneuses parce que c'est une ressource qui génère des revenus.
Et c'est justement, pour comprendre le rôle des autorités locales que nous avions invité, Mamadou Diallo, qui est le maire de la commune de Niassia, dans cette émission. Il avait accepté, mais chose curieuse, il répond aux abonnés absents. Alors, vous êtes deux que nous accueillons sous cet arbre à palabres, docteur Moussa Cissé. Qu'est-ce que vous répondez à monsieur Haïdar El Ali, qui intervenait tout à l'heure et qui indiquait que les populations, les autochtones, n'ont pas autant accès aux ressources naturelles, notamment dans le cas d'espèces, le bois, et que c'est des acteurs nantis qui viennent de dehors, parce qu'ils ont la licence, qui viennent exploiter.
Oui, je crois que Ali Haïdar a parfaitement raison sur toute la ligne. C'est ça qui est dommage. Nous disposons de ressources naturelles, et malheureusement, ces ressources naturelles, nous n'en bénéficions pas, parce que ce sont les autres. Une sorte de mafia qui vient s'occuper, qui vient nous piller nos ressources. C'est ça le vrai drame.
Mais quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle de l'État qui est le garant?
Notre observation, c'est de dire que aujourd'hui, pour lutter contre la déforestation, il faut nécessairement démanteler cette mafia-là. Et pour démanteler cette mafia-là, il faut renforcer la sécurité au niveau des forêts. Il faut renforcer les moyens mis à la disposition à la fois des militaires, des eaux et forêts, de la gendarmerie, pour éviter que de tels incidents ne se produisent en cas en masse.
Mais quand on parle de la sécurité, on parle aussi quand même des collectivités territoriales. Quand on parle de l'État, ils sont également les représentants de ces collectivités territoriales, la prolongation de l'État sur le terrain. Que font les maires, que font les chefs quartiers? Sont-ils aussi de mèche avec les exploitants illégaux?
Oui, mais ceux-là aussi, il faut les maintenir. Si les maires ou des habitants même de la commune font partie de cette mafia-là, mais il faut absolument les dénoncer et les mettre hors de l'état de nuire. C'est indispensable. Alors quand on parle de mafia, on parle de tout le monde, hein, tous ceux qui sont concernés par ce trafic illicite de bois, que tous soient dénoncés, que tous soient punis. Malheureusement, sur le plan moyen, les communes n'ont aucun moyen de défense. Il n'y a que les comités de surveillance ou les comités qui se créent au niveau des villages avec des jeunes pour essayer de mettre fin à ce pillage. Mais ça, c'est des moyens dérisoires.
Haïdar El Ali, l'État sénégalais a essayé donc depuis quelques années de déployer des efforts pour contrôler mieux le secteur de l'exploitation illicite de bois. Que s'est-il passé durant tous ces temps? Quelle est votre appréciation de la réaction de l'État sénégalais?
Le président Macky Sall a bien compris l'urgence d'agir et avait dépêché à l'époque, il y a 2 ans à peu près, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Environnement pour s'occuper de ces questions. Il y a beaucoup de saisies de petits trafiquants. Et c'est là un peu aussi le problème, parce qu'on arrête toujours le petit trafiquant porteur de sa charrette qui a un bois ou deux. Mais le mafieux qui est là-haut, lui, et qui est connu, le premier des trafiquants de mon pays, c'est le président des exploitants forestiers qui s'appelle Ablaye Sow. Il a tous les permis parce que, justement, par un système, il a une quarantaine de GIE qui lui appartiennent, qui ont des licences d'exploiter. Et en veux-tu, en voilà, lui, il a des terriers. Et premièrement. Deuxièmement, il y a les gens qui ne sont pas des exploitants, mais qui vont dans la forêt se couper. Ce qu'il faut dire, ce patrimoine commun, nous avons prouvé qu'il était possible de la gérer, que nous avons réalisé, avec le CIANIAM que je dirigeais, un reboisement de 15 000 hectares de mangroves, qui pousse aujourd'hui et qui génère des revenus carbone pour une entreprise privée. Mais ça veut dire que on peut impliquer les populations à générer la ressource, à nous accompagner dans ce chantier-là, qui est en plus créatrice d'emplois verts. Mais c'est vers cela qu'il faut aller. Et il faut occuper l'espace par l'éducation, par la sensibilisation. Ces populations démunies sont dans des conditions terribles. Ils se sentent abandonnés.
Oui. Monsieur El Ali, vous avez parlé de certaines situations où l'on remarque que la justice donne raison à certaines personnes qui sont considérées normalement comme les personnes à punir. Vous avez cité un exemple où des jeunes activistes ont dû être condamnés parce qu'ils ont été poursuivis en justice par des acteurs à qui ces jeunes reprochaient un certain abus dans l'exploitation des ressources. Alors, vous avez aussi évoqué la Chine. N'y a-t-il pas de règles claires dans le secteur de l'exploitation de sorte à ce qu'on puisse savoir qui achète quoi, chez qui exactement, et savoir combien l'État sénégalais empoche?
Bon, d'abord, je n'indexe pas la justice. Je dis qu'il faut l'impliquer dans cette gestion-là. Parce que quand un individu, qui qu'il soit, arrive devant la justice avec un certificat médical qui lui dit qu'il a 21 jours d'incapacité de travail, la loi sénégalaise est claire, elle dit qu'il faut enfermer l'auteur de cette bavure. Et donc, comme les exploitants ont des moyens, comme très souvent ils sont bien entourés, c'est eux qui vont chercher des certificats et qui vont aller porter plainte. Le jeune paysan qui est dans sa brousse, il est loin de ses réalités-là. Donc, il est l'otage d'un système qui ne le protège pas. C'est ça que nous dénonçons. Le système doit le protéger, lui. Et c'est pour ça que nous disons que la peine pour un trafiquant doit être une peine pénale. Parce que aussi, il est possible pour un trafiquant de payer une amende, de se retrouver libre. Et même, on a très souvent vu que c'est le trafiquant qui est à l'origine d'un trafic de charbon ou de bois, qui paye une amende et qui rachète son produit. Donc c'est une sorte de blanchiment du charbon, c'est une sorte de blanchiment du bois. C'est terrible ce qui se passe.
Alors, Dr Moussa Cissé, on l'a entendu, Haïdar El Ali l'a évoqué aussi, le rôle de la Chine qui importe beaucoup de bois de veine de ce territoire. Même si on parle du territoire gambien, c'est un pays voisin du Sénégal. Et M. Haïdar El Ali a expliqué également que c'est la même forêt hein, qui associe tous ces pays dans la région. Est-ce que vous croyez qu'il y a des complicités au sein donc, de l'administration quelque part au Sénégal qui favorise ce genre de trafic?
Oui, c'est évident que les États voisins peuvent jouer un rôle dans le trafic illicite de bois, puisque ce bois-là passe par leur territoire. Mais il nous appartient à nous-mêmes d'abord de nettoyer à nos portes. Parce que si le bois ne quitte pas le Sénégal, ben, il faut que le bois quitte le Sénégal pour que en territoire gambien, à la frontière gambienne, que les Gambiens disent « Ah non, ça, ce bois-là, il n'y a aucune autorisation, donc ce bois-là ne peut pas rentrer chez nous. De même pour la Guinée-Bissau. Mais il faut déjà que nous, à notre niveau, au niveau de la Casamance, qu'on interdise, qu'on arrête et qu'on prenne toutes les mesures nécessaires pour que ce bois-là ne puisse aller. On est d'accord également que par rapport à la Chine aussi doit pouvoir normalement jouer un rôle dans la mesure où elle devrait pouvoir refuser l'importation illicite de bois.
Vous croyez vraiment que ce genre de choses est possible, qu'il
oui,
y a de l'éthique
Non, il ne faut pas trop y compter, parce que les États défendent leurs propres intérêts. Donc, il ne faut pas trop y compter. Les moyens, c'est chez nous, il faut absolument dégager tous les moyens nécessaires pour défendre notre patrimoine forestier.
Alors, Haïdar El Ali, nous restons encore un peu avec vous. Nous avons parlé donc des différents acteurs impliqués dans cette activité d'exploitation de bois en Casamance. La Casamance est une région instable depuis maintenant plus de 3 décennies. On sait qu'il y a la rébellion du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Voilà. Alors, quel rôle joue cette rébellion dans l'insécurité qui entoure l'activité d'exploitation de bois?
S'il vous plaît, retenez que je vis en Casamance et je préfère marcher dans la rue à 3h du matin à Ziguinchor que de marcher à 8h du soir dans n'importe quelle banlieue de Dakar ou dans n'importe quelle capitale régionale, Kaolack, Kurgan, etc.
Ça veut dire qu'il y a la sécurité.
Je me sens beaucoup plus en sécurité en Casamance. Seulement, il y a des zones contrôlées par des gens qui ont leurs propres convictions. Je ne le partage pas avec eux. Mais ces gens-là ont donné des limites, ils sont cantonnés dans leur... Et ils disent que personne ne rentre là-dedans. Ils ont fait des communiqués, ils ont... Il y a un des rescapés qui dit, moi, on m'a attrapé là-bas 14 fois, on m'a tabassé 14 fois. Bon, vous vous rendez compte? Et en plus, il a réussi à s'en sortir. Il a eu la chance, heureusement pour lui. Mais il dit que 14 fois, ces gens l'ont interpellé. Eh bien, au bout d'un moment, ils en ont eu assez. Et malheureusement, sûrement par énervement, moi, je ne crois pas que ce soit un mot d'ordre du MFDC, qui est le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Je ne crois pas que ce soit un mot d'ordre, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une belle période d'accalmie entre le gouvernement et ce mouvement. Il y a un dialogue permanent.
Justement,
je crois à la paix, je crois au dialogue.
Oui, justement, qu'est-ce qu'il faut craindre lorsque, en période d'accalmie, vous avez dit, il y a des négociations qui sont en cours sous l'autorité de Sant'Egidio de Rome. Il y a des efforts pour la pacification de la région. Quel rôle pourrait jouer ce drame ou bien cette insécurité liée à l'exploitation du bois dans cette pacification? Est-ce que tout est relancé, tout est remis en cause?
Non, pas du tout. Bon, ces négociations-là, elles vont continuer. Il y a juste qu'il faut qu'on taise les armes. Ce n'est pas parce qu'un individu a fait une faute qu'il faut impliquer tout le monde. Il faut qu'on taise les armes. Et d'ailleurs, je suis content de voir qu'il y a un dossier d'enquête diligenté par la gendarmerie qui est sur place pour faire une enquête. Donc, tout cela suit un bon cours. Il faut faire les armes, mais il faut aussi retenir, et c'est très important, que les lobbies qui ne veulent pas accepter, parce que justement, cette situation leur profite financièrement, ils peuvent rentrer dans la forêt.
Mais concrètement, de qui parlez-vous? Vous parlez de lobby, de qui s'agit-il?
De tous ces mafieux et de tous ces lobbies qui exploitent la forêt à coups de milliards. C'est peut-être eux qui ont fomenté tout cela. Je ne sais pas. Hein.
Est-ce qu'on les connaît?
J'imagine un scénario.
Haïdar et Ali, est-ce qu'on les connaît, ces gens-là?
On les connaît, bien sûr qu'on les connaît, puisque on sait que c'est les Chinois qui exportent 5 conteneurs et récemment 9000 conteneurs de la Guinée-Bissau, de Guadeloupe, illicitement coupés. Donc on sait où ils sont. On sait qu'ils ont pignon sur eux. Il y a une société qui s'appelle la société Westwood, qui est dirigée par, qui appartient à un Suisse, qui a un château en Suisse. On connaît ces gens-là. Il y a un Suisse qui est derrière tout cela pour la partie gambienne, qui a monté une société. Quand vous allez dans le site de Westwood, vous allez voir qu'ils sont magnifiques. Ils construisent des écoles, ils font du social, tout cela sur le dos de la dévastation de nos forêts. Et ces gens sont connus. Le président des exploitants forestiers, ça fait 30 ans et 4 dimanches qu'il pille la forêt. Il a commencé à Sébikotane, à 50 km de Dakar, dans les années 50. Aujourd'hui, il est dans la forêt de Kolda. Il a parcouru 700 km à dévaster la forêt. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Mais mon Dieu, il faut que ça cesse tout ça là.
Une question, monsieur El Ali. On entend aussi parler de l'ancien président de la Gambie, Yahya Jammeh, qui serait en contact avec des éléments incontrôlés du MFDC et qui aurait peut-être quelque chose à voir avec cette situation d'insécurité dans la région. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est sûr qu'à l'époque, tout cela avait été fomenté et organisé par lui, parce que quand on exportait un conteneur de bois, Westwood donnait une autorisation qui lui rapporte 3000 dollars. Et c'était une source de devises très importante pour le président gambien. Et d'ailleurs, j'attire l'attention des Américains que cette Afrique est organisée avec leur devise, le dollar. Peut-être qu'ils devraient s'intéresser à porter plainte eux. Ils ont plus de moyens que nous. Ensuite, il a demandé à un individu, donc Bizena, qui est un Suisse, logé en Suisse, qui a un gros château là-bas, qui a fait fortune sur ce trafic-là. Et ensuite, il a demandé à une société de transport française de transporter tous ses conteneurs. Donc, cette mafia-là, elle concerne tout le monde. C'est pour ça que j'accuse, c'est pour ça que je dénonce cette fumisterie de COP 21 jusqu'à COP 100, que les mêmes qui se retrouvent là-bas et qui sont ici en Afrique à piller nos ressources. Alors, ça suffit, quoi.
Moussa Cissé, on a parlé aussi de l'insécurité ou de l'instabilité qui caractérise la région du sud du Sénégal. Il y a la rébellion indépendantiste du MFDC. Est-ce que le drame survenu le 6 janvier 2018 est aussi l'illustration du fait qu'il y a encore des territoires contrôlés par peut-être des ailes du MFDC, puisqu'il y a différentes fractions, que certaines fractions contrôlent des territoires et n'acceptent pas que des gens, des personnes viennent sur ces territoires pour couper des arbres?
Non, je pense qu'il faut quand même être clair. Le Sénégal est indivisible. Donc, il ne peut pas y avoir une portion du territoire sénégalais occupée par des gens et qui s'identifient comme étant sur un territoire autonome qui n'a rien à voir avec le Sénégal. Ça, il faut être clair là-dessus. Ça n'existe pas. À partir de ce moment, une rébellion qui dure depuis une trentaine d'années et qui aujourd'hui est en train de connaître une situation relativement favorable pour une paix durable. Aujourd'hui, il y a un processus qui est en cours. On prépare des négociations. Il faudrait que les armes se pèsent. Une fois que les armes se sont tues, à ce moment-là, on peut discuter. Mais on ne peut pas discuter au moment où on fait des carnages, au moment où on fait des braquages, etc. Ça, c'est pas possible.
Voilà, ainsi s'achève cette émission, L'Arbre à Palabre, que nous avons enregistrée aujourd'hui avec deux invités. Haïdar El Ali, célèbre environnementaliste sénégalais et ancien ministre de l'Environnement. Il préside l'ONG Oceanium. Et Dr Moussa Cissé, le secrétaire général du collectif des cadres casamançais. Le thème, c'était l'exploitation illicite de bois dans le sud du Sénégal. Le 6 janvier 2018, 13 personnes ont connu la mort suite à l'attaque par le fait d'un groupe armé. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission et à la semaine prochaine pour notre thème sous l'arbre à Palabre.